Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bienvenue dans ce 50e épisode, j'ai reçu Thomas Devineau, cofondateur et CEO de Louis, pour un échange d'une heure sur ses projets de folie. Si je vous parle de fabriquer le drakkar le plus rapide du monde, de créer du mobilier de bureau éco-responsable, personnalisable et 100% made in France, tout ça de A à Z en apprenant tout au fil du temps et en n'ayant aucune connaissance en ébénisterie au départ, eh bien c'est l'aventure incroyable de Thomas et de ses potes toulousains. Dans ce 50e épisode, Thomas vous raconte notamment quel a été son parcours avant d'entreprendre, la compagnie du Batar, Batar c'est bateau viking en islandais, comment ont-ils eu l'idée de fabriquer un drakkar, et comment fabriquer un drakkar de A à Z, comment cette aventure de bateau viking le mène vers la fabrication de mobilier de bureau éco-responsable, qu'est-ce qui l'anime au quotidien en tant qu'entrepreneur, ou encore ses meilleurs conseils pour entreprendre, vous saurez tout. Quant à moi, j'espère que cet épisode vous plaira. Nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, pour un nouvel épisode. D'ici là, c'est très important, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si le podcast vous plaît, évidemment, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode des Serial Entrepreneurs à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer, et de me rejoindre sur Instagram, @serialentrepreneur, et le tirer du bas à la fin. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Thomas.
Salut François, merci beaucoup.
Je suis très heureux de te recevoir dans le podcast.
Moi aussi.
mes premières questions concernent toujours le parcours. Et la première, c'est dans quel environnement as-tu grandi ?
Alors moi, je suis toulousain d'adoption. Je suis né à Amiens, j'ai grandi jusqu'à avoir 9 ans dans le nord de la France. Et après, j'ai bougé avec mes parents à Toulouse, où j'ai fait la grande partie de ma scolarité, donc de la fin de la primaire jusqu'à la prépa. Moi, j'ai fait un parcours assez classique, plutôt bon élève, fait classe prépa, maths, maths, spé, école d'ingé. Et moi, j'ai toujours aimé faire des projets. Enfin, ma vie se résume à plein de projets que j'ai fait, même quand j'étais très jeune, que ce soit de construire des cabanes, à faire des projets sur l'hydrogène au lycée et démarrer des projets entrepreneuriaux, on va dire prépa, école d'ingé. Et alors que je viens pas du tout d'un monde d'entrepreneurs, enfin ma mère est prof, mon père il est DRH, il y a pas cette culture dans la maison ni proche, mais j'ai toujours aimé entreprendre, faire des choses, les maîtriser de A à Z quoi. Et surtout moi, j'aime beaucoup les gens qui font les choses. J'aime pas trop les gens qui parlent beaucoup, qui font rien, quoi.
Ouais, je suis totalement... J'ai la même vision.
C'est parfait.
C'est quoi, justement, ton parcours avant d'entreprendre, avant de lancer ton premier projet, on va dire ?
En fait, moi, j'ai démarré... j'ai lancé le projet Louis directement après les études. Le premier CD que j'ai signé, j'étais recruteur, j'étais pas salarié. Donc ouais, moi j'ai vraiment, à part des stages ou des jobs d'été, jamais bossé pour quelqu'un d'autre que moi. Et j'ai toujours fait des projets. Donc on a effectivement un projet, on va parler juste après, qui est de construire des drakkars et de naviguer avec. Et après un deuxième projet qui est Louis, qui est une entreprise, qui est de faire du mobilier de bureau.
Ouais, super. Justement, on y vient. La compagnie du Batar, donc Batar, ça veut dire
bateau en islandais.
Viking en islandais, exactement. J'ai bien révisé. c'est une asso que vous avez créée en 2012, si je dis pas de bêtises.
Ouais, exactement. La genèse du projet date de 2011, mais officiellement, l'asso a été créée en 2012, effectivement. Ouais.
Et du coup, qui a eu pour but de construire un drakkar de A à Z. Est-ce que tu peux me raconter cette aventure de fou ?
Avec plaisir. Ça, c'est effectivement, c'est mon activité du week-end. Donc en fait, c'était en 2011, on était en prépa avec mes potes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours aimé construire et fabriquer des choses faire des projets ensemble et plus particulièrement construire des choses de nos mains, bah, c'est quand même toujours très gratifiant et c'est assez agréable. Et on était plusieurs à aimer l'histoire, et donc le projet commun qui allait nous garder en contact, connectés, parce qu'on savait qu'on allait partir partout dans les écoles d'ingé en France, c'était donc d'avoir un projet qui allait mêler défis techniques et veut dire défis historiques ou histoire. Et du coup, le Drakkar, le bateau viking, ça paraissait en fait le choix le plus logique par rapport à ce qu'on avait déjà fait avant. Donc, ce qu'on avait fait avant, donc on a un long historique de construction de catapultes, de trébuchets, etc. Grandeur nature. J'aime bien les maquettes, mais je préfère le grandeur nature, c'est quand même plus drôle. Et donc en fait, construire ce bateau-là, ce bateau mythique, c'était un peu la next step parce que c'était un truc plus gros, c'est un truc qu'on allait pouvoir utiliser puisque c'est un bateau, donc on peut naviguer dessus. Et c'est quelque chose qui nous paraissait techniquement faisable parce que pareil, aucun de nous n'est on était aspirant ingénieur à ce moment-là. Aucun de nous n'a de grands-parents ou de parents qui est ébéniste, menuisier, qui a le maître atelier. On n'a rien de tout ça, ce qui fait qu'on a du coup aucune œillère et juste beaucoup de volonté et de curiosité. Et je pense que ça nous a permis d'atteindre le projet jusqu'au bout. Mais voilà, vraiment. Et pourquoi viking? Parce que, on ne va pas bullshiter sur on a du sang de viking, je ne sais pas quoi. Non, c'est juste que c'est un bateau mythique. C'est un bateau de pionniers. C'est des mecs qui, il y a 1000 ans, ils ont découvert l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb, sur un bateau extraordinaire. Et vraiment, c'était. Maintenant qu'on navigue dessus, on comprend pourquoi il y a 1000 ans, c'était vraiment. Enfin, c'est vraiment à la pointe de la techno. Et pourquoi ils ont été aussi performants dans leurs déplacements, dans leurs conquêtes, etc. Et c'est une époque, une thématique qui plaît beaucoup aux gens en termes de fantasmes, etc. Et on s'est pas trop trompé parce que depuis 2013 avec la série Viking, plus d'autres sujets comme Game of Thrones, là on arrive vraiment sur un truc très mainstream avec beaucoup de films, de jeux vidéo, de dessins animés sur le monde viking et avec pas mal aussi de d'anciens mythes qui ont été déconstruits, donc c'est plutôt cool. Donc voilà un peu pourquoi on est parti sur ça. Et donc le délire du projet, c'est on maîtrise toutes les étapes de A à Z. Donc en gros, c'est on est étudiant, on n'a pas d'argent, donc on fait nos plans avec ce qu'on trouve sur Internet. Et notamment, on a beaucoup utilisé la base documentaire de Roskilde, qui est un musée viking au Danemark, qui reconstruit et restaure des bateaux vikings coulés autour de l'an 1000. Et ils font ça depuis les années 60. Donc c'est une énorme base documentaire et c'est les plus gros spécialistes en Europe de restauration de bateaux vikings. Et donc on se base sur ce qu'ils mettent en ligne sur leur site internet, pardon, pour faire nos plans. Notre cahier des charges, il est simple. On est 4. Le bateau est en chaîne massif. Faut qu'on puisse le porter dans moins de 200 kilos. Donc ce qui va donc le limiter en termes de taille, de dimension. Et voilà. Et après, avec nos plans, on va dans la forêt. On abat le chêne à la hache. Et comme on n'a pas d'argent pour aller dans une scierie pour acheter des planches, du coup on fabrique la machine pour transformer le tronc en planche, puis le planche en bateau. Et donc de 2011 à 2016, on a construit ce bateau à la fois en développant ce que moi j'appellerais une culture de conception et fabrication de machines utiles low cost, pour pouvoir faire les différentes étapes de construction en fabriquant les outils qui nous manquaient, d'abord purement mécaniques, puis après méca-élec, puis après méca-élec informatique avec notre première CNC qu'on a construit en 2015 et en fait qui était du coup à l'aube du projet Louis dont on va parler juste après. Et donc ce bateau, on le met à l'eau, on le finit au bout de 5 ans. Super expérience, on fait une mise en scène viking en mode mini puits du fou avec des gens en armure et tout, avec nos potes, devant des 800 spectateurs. Et en 2017, on part avec en expédition. Donc en gros, c'est un bateau qui fait, le premier, il fait 5,50 m par 1,50 m de large. Voilà, donc on rentre tout justement nous cinq dedans et on est parti avec au Danemark le montrer du coup au musée avec lesquels on discutait depuis 2013 et sur lesquels on s'est inspiré, qui ont été à la fois très surpris et aussi émus qu'on ait ramené notre bateau, même qui ressemble pas mal, qui est encore loin d'un vrai Drakkar, mais au moins on avait fabriqué un bateau en entier et on est allé jusqu'au bout de la démarche et il fonctionne. Et après on l'avait mis à l'eau sur ce que nous on appelait à l'époque une expédition, qui était de traverser un lac sur 2 jours. Il y avait 2 km en étant loin des côtes, donc ça nous paraissait ouf. Et on a ultra kiffé, on s'est dit, putain, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on refasse, mais il nous faut un truc plus gros, plus stable pour embarquer nos potes. Et c'est comme ça que vraiment l'esprit du projet Bâtard, qui s'appelle comme ça, s'est créé. Et donc de 2018 à 2019, on a construit un nouveau bateau qui s'appelle Bâtard Fear, qu'on peut voir sur Insta, sur Les Bâtards. et qui, avec lequel on est parti déjà deux fois, Danemark, Suède, Norvège, mais là pour faire des vraies expéditions où là on navigue pendant une semaine ou deux semaines au large de la Norvège, au large du Danemark, en haute mer, etc. quoi.
Et d'ailleurs, ces aventures sont disponibles sur YouTube, sur votre chaîne.
Exactement. Et voilà. Et cette année, pour fêter les 10 ans du, donc l'asso a vraiment grossi. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de personnes qui gravitent autour de ce projet-là. Et on continue à se former, à aller naviguer en haute mer. Et en fait, on a lancé, début 2021, notre nouveau projet pour fêter les 10 ans de l'asso, notre projet le plus fou, qui est de construire le drakkar le plus rapide du monde et de traverser l'Atlantique avec en 2024. Pour faire Toulouse-New York en 2024.
C'est génial. Je sais même pas quoi dire tellement le projet est fou et vraiment je pense que d'une cinquantaine d'entrepreneurs interviewés, je crois que c'est le projet le plus fou et le plus impressionnant. Qu'est-ce que ça vous a fait en fait le moment où vous avez mis le bateau dans l'eau et qu'il flottait qu'est-ce que ça fait en fait ce moment-là?
Alors c'est des moments particuliers pour nous parce qu'à chaque fois comme on n'habite pas à côté de la mer ou à côté de ou littéralement à côté d'un fleuve ou d'un lac, quand on le met à l'eau, c'est le moment où on le met à l'eau pour la première fois, mais on le fait pendant un spectacle parce qu'on aime aussi la mise en scène. Pour le deuxième comme pour le premier, alors c'était plus impressionnant pour le deuxième parce qu'on était sur un bateau qui passe à 12 mètres de long par 2,50 mètres. Et que c'est un gros truc et que quand il sort de l'atelier, il est fini, mais on l'a jamais testé. Et quand on le teste littéralement devant 2000 personnes. Donc faut vraiment que ça marche, sachant qu'on a sur le deuxième bateau, on a vraiment développé beaucoup de techno et c'est-à-dire qu'en fait, on a un moteur notamment. Alors les moteurs, on l'avait pas encore à ce moment-là, mais on l'a mis cet été pour la sécurité, même si on l'avait pas l'année dernière alors qu'on a fait un parcours plus dangereux. Mais bon, c'est comme ça. On a fait un mix entre tradition et modernité. C'est-à-dire que on n'est pas des boat builders qui ont fait 20 ans de construction de bateaux en Norvège ou aux îles Féroé avec des maîtres, etc. Nous, on est des ingénieurs. Du coup, on part de plans de bateaux existants qui s'appelle le Scud de l'F6, qui est un bateau qui a été coulé en 1036. Et à partir de ça, on vient mettre notre savoir-faire d'ingénieur sur les matériaux, sur la commande numérique. Et du coup, le bateau, il est fabriqué non pas en chaîne massif, mais en contreplaqué de pain. On respecte la forme, on respecte la façon, l'assemblage des planches, mais au lieu d'utiliser des clous en fer forgé, on n'est pas forgeron, on va utiliser des boulons en inox, on va pouvoir contrôler la qualité, l'homogénéité du métal, de l'acier et les performances de chaque boulon pour éviter d'avoir des surprises. Et ce qui fait qu'à la fin, on a un bateau qui est ultra performant et qui, en fait, fonctionne mieux que les originaux. Parce que du coup, quand on est allé voir tous nos potes en Norvège, en Danemark l'année dernière, ils nous attendaient pour faire la course sur un des fjords. Et nous, on était vraiment, ça faisait une semaine qu'on naviguait, donc on était parti d'un point A au Danemark pour arriver au port de Roskilde, qui est pour nous le centre du monde viking de bateaux, et de pouvoir voilà montrer notre bateau. Donc ils nous disent, ah, votre bateau, il est super joli, mais on voulait leur montrer qu'en fait non, il fonctionne très bien. Donc par exemple, la voile est une voile fabriquée en Norvège traditionnelle, donc tout le fonctionnement est traditionnel, c'est juste que les matériaux ou certains éléments de détail à l'intérieur sont modernes ou passent par nos mains d'ingénieurs modernes pour en faire un bateau plus sûr, plus performant. Et en fait, on les a battus à plat de couture, alors que nous, ça faisait un an qu'on faisait du drakkar et pas 20 ans, comme certains d'entre eux, quoi. Et donc, c'est fort de cette expérience-là que du coup, on se dit qu'on est capable de construire à la fois le drakkar le plus rapide du monde et en faire un bateau performant pour traverser l'Atlantique. Le moment où on le met à l'eau, on a beaucoup de choix techniques de risques qu'on a pris qui vont se valider ou pas. Et quand tu le mets le bateau à l'eau et que tout est parfait, mais vraiment 100%, c'est vraiment un projet tech où on a fait pas 90%, vraiment tout a été parfait du premier coup. Et bon, et du coup, avec ça, moi je montre à mes équipes d'ingé que c'est possible de réaliser des projets de grande ampleur avec des grands défis et le réussir du premier coup, c'est possible. Alors après, tu peux toujours faire des tests. Mais là, nous, c'était difficile de faire des tests et on avait vraiment beaucoup, beaucoup de choix ou de paris techniques et tout a parfaitement fonctionné. Et de loin, le meilleur projet qu'on ait réalisé d'un point de vue technique du premier coup, quoi. Donc, ouais, gros, beaucoup de satisfaction, beaucoup de... Voilà, quand tu mets dans l'eau, tu vois qu'il est stable, qu'il est nickel, que quand tu commences à ramer, il va droit, là t'es content. Et déjà, tu te projettes. Là, ce que tu as envie, c'est que tu viens de le mettre à l'eau, mais dans les 5 minutes après, j'avais déjà envie d'être en Norvège avec pour le tester.
Et en mer, ça donnait quoi Notamment sur les périples un peu dangereux, comme tu as dit.
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on voulait voir maintenant, ça marche sur lac. Et du coup, l'année dernière, on a fait une semaine au Danemark, dans la mer du Danemark, une semaine en Suède, là, plus sur des lacs, et deux semaines entre Stavanger et Bergen, pour ceux qui connaissent la Norvège, sur la côte norvégienne qui est ouverte sur l'océan. Et en fait, on peut prendre des creux de 2-3 mètres, le bateau encaisse sans problème, c'est vraiment un bateau qui est extrêmement performant. Qui surfent bien les vagues, vraiment on a pu faire des trucs de ouf avec ce bateau, et ce qui fait qu'on a aussi gagné le respect de toute la communauté qui s'appelle la Viking Ship Family, donc qui sont des gens en Europe, principalement du Nord, qui ont des drakkars et qui savent naviguer à l'ancienne. Donc nous on a l'équipage le plus jeune, et du coup ils sont un peu jaloux parce qu'ils ont plutôt 50 balais, pas 25 ans de moyenne d'âge, mais ouais, du coup c'est un bateau qui vraiment fonctionne extrêmement bien, et c'est pour ça qu'on s'est dit ok, autant le premier c'était un test, là sur le deuxième on a vraiment construit un vrai bateau qui on n'a pas fait une réplique, un truc un mouton à 5 packs, on a vraiment fait un bateau qui marche extrêmement bien.
Super, vous avez aussi fait une collab avec un youtubeur, Joyka notamment.
Ouais. En fait on commence à être un peu connu en France sur ce play qui est le truc drakkar viking, etc. Et du coup ils avaient, pour le lancement du jeu Assassin's Creed Valhalla, ils avaient besoin d'un drakkar pour filmer une séquence. Alors à la base on aurait dû faire un truc de ouf près de Saint-Malo, et il y a le Covid saison 2 qui s'est pointé, donc on a eu la chance, et ça on est quand même super content que le tournage a été annulé puis décalé puis fait en manière un peu plus sommaire. Mais elle a pu avoir lieu, c'était une putain d'expérience d'être sur un plateau avec 40 personnes, avec 25 cadreurs, caméras. Enfin, pour nous, c'était une première aussi, et c'était génial, quoi.
Ouais, tu m'étonnes. C'est un projet d'envergure, et puis qui met en avant aussi votre construction, quoi.
Voilà. Donc aujourd'hui, on est contacté par plusieurs projets pour faire des poids sur des films ou des vidéos, etc. Il y a des trucs qu'on peut pas encore annoncer, mais il y a des trucs très très cool qui vont sortir début d'année prochaine, qui permettent pour nous de financer justement notre gros projet de construire ce bateau de ouf.
Oui, justement, parce que en parlant du financement, c'est autofinancé, ou justement vous avez des mécènes ou des moyens de financer tout ça?
Non, aujourd'hui, alors jusqu'à présent c'était autofinancé, on utilise tous les outils et l'atelier de fabrication de Louis pour pouvoir nos savoir-faire pour pouvoir produire ce bateau, parce qu'on du coup l'asso travaille le week-end. C'est un projet où l'asso a fait des opérations, soit de team. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on vend pas mal de team building à des entreprises pour leur faire découvrir la culture viking ou la navigation drakkar, qui est assez peu connue, ce qui nous permet de financer une bonne partie de nos projets. Mais là, le projet qu'on lance, c'est un projet d'envergure bien plus importante, et on passe d'un budget annuel de 30-40K. Sur un budget total de sur 3 ans à 2 millions 5, quoi.
Ouais, c'est
donc
énorme.
Là on a vraiment besoin de vrais sponsors, c'est pour ça que le projet est différent, c'est-à-dire que jusqu'à présent c'était nous dans notre coin et on fait participer les copains, etc. Et là on annonce un projet, donc le projet Bâtard, qui est de construire le drakkar le plus rapide du monde et de traverser l'Atlantique avec en 2024, qui va avoir un chantier naval participatif dans Toulouse, en centre-ville, où les gens vont pouvoir venir visiter, bien sûr, pour pouvoir apprendre plein de choses sur la construction de bateaux, sur les vikings, etc. Mais aussi qui vont pouvoir, en fait, apprendre à construire des drakkars, puisque c'est tout l'objectif et toute la philo de ce qu'on fait chez nous, enfin, dans l'asso. C'est le plaisir, on vient sans œillère, sans expertise, on n'est pas des sachants. Par contre, ce qu'on aime, c'est la bonne volonté, la curiosité, et de montrer que c'est possible de faire des choses qui paraissent impossibles avec peu de moyens et juste de la volonté. Et donc ce projet, c'est à la fois que les Toulousains et les Toulousaines puissent l'adopter, et puis qu'ils puissent venir en fait participer et apprendre, en fait, quel que soit ton niveau de compétence, quel que soit ton métier, en fait on va te former pour apprendre et participer à la construction du bateau, puisque c'est un truc énorme, 28 mètres par 6, donc il y aura beaucoup de choses à faire pour pouvoir le finir pour milieu 2023 et faire les essais entre 2023 et 2024.
Génial. Et le drakkar aujourd'hui, il est où?
Le drakkar, donc le numéro 2, là, celui qu'on utilise souvent, il est dans un hangar pas très loin de l'usine Louis. Il est sur remorque, en fait, donc là on peut vraiment le projeter où on veut en France. En fait, il a été construit pour être le plus grand, légalement transportable sur remorque sans permis spécial.
Ah, génial.
On peut aller n'importe
tout
où.
Tout a été pensé au millimètre.
C'est ça.
C'est fou. On arrive justement à Louis. Est-ce que tu peux me parler de ce projet ?
Carrément. Donc effectivement, on a démarré notre relation avec le bois et la fabrication avec le projet Bâtard. Et donc sur la fin du projet, quand le premier bateau était quasiment fini, on cherchait toujours des moyens en fait de financer ce projet, puisqu'on n'a jamais été sponsorisé. Enfin, si on a eu des sponsors, mais tardivement. Mais on a jamais eu de subventions, de financement public. On s'est vraiment toujours débrouillé tout seul. Et du coup, on s'est dit, ok, ça fait 5 ans qu'on fabrique des machines pour couper du bois. On commence à avoir des compétences dessus. Est-ce qu'on pourrait pas en fait, fabriquer des meubles pour les vendre et financer le projet du bateau. Et 2015, c'est aussi le moment où en France, le mouvement Maker, il a explosé avec les Fab Labs, avec les trucs open source. Et du coup, on s'est inscrit sur plusieurs plateformes pour dire, regardez, on a des compétences, on a des commandes numériques. Bon, c'était pas vrai à l'époque, mais on a dit qu'on en avait. Et on peut fabriquer toutes ces gammes de meubles open source, etc. On s'est inscrit sur ce site. Et en 3 jours, on avait une demande de devis et en 2 semaines, on avait signé notre premier deal. Enfin, à l'époque, je me rappelle, on avait signé 800 euros de tabouret qui pour tout était un exploit extraordinaire parce que quand tu galères pour trouver 20 euros par-ci, 20 euros par-là, que tu fais des paris sportifs ou genre de conneries en ligne ou de parrainage de bancaire en mode BDE, en fait, t'es vite limité. Et là, voilà, vendre 800 euros de tabouret, c'était incroyable. Et donc, on a fait ce projet-là et en fait, on a ultra accroché. Dans faire du design, dans la transformation de la matière, de faire un produit physique qui était le meuble. Et puis on a commencé à équiper un, puis deux, puis quelques espaces de coworking à Toulouse. On a fait plusieurs petits projets, des restaurants, etc. Et en fait, c'est vraiment donc en fait en 2015, on est encore en école d'ingé. Je finis mon école à ce moment-là. Et en 2016, c'est vraiment le moment où je suis full time sur le projet, qu'on teste plein de choses, qu'on finit notre premier bateau. Et l'équipe de fondateurs se construit réellement en mars 2017, où là vraiment on se concentre sur un seul projet qui est le projet de Louis aujourd'hui. À l'époque, c'était du mobilier de bureau pour entreprise, 100% custom, livré en 15 jours. Voilà ce qu'on a lancé en 2017. Et aujourd'hui, c'est devenu du coup une boîte. Avec 16 personnes qui fait du mobilier de bureau qui est éco-responsable, qui est 100% personnalisable et made in France, puisque du coup on fabrique tout à Toulouse. Et nous, notre philo en fait derrière ce mobilier, c'est pas de fabriquer juste du produit, c'est pas juste faire du design, c'est vraiment de venir changer la façon dont on consomme le mobilier de bureau aujourd'hui en France et en Europe. C'est une industrie qui est assez énorme. Elle fait 1,5 milliard en France, elle fait 12 milliards en Europe, 15 aux US et puis 70 dans le monde. Et c'est une industrie en fait qui pollue énormément parce que la logique est la suivante. Voilà, toi François, tu as une équipe de 20 personnes. Moi, je suis un distributeur de mobilier, je viens de voir, je vais vendre du mobilier. Tu vas l'utiliser pendant 3 à 5 ans, puis vu que tu vas grossir, tu vas avoir envie d'avoir de nouveaux meubles, tu vas soit déménager, changer d'espace. Et dans la grande majorité des cas, ce mobilier, du coup, il va être jeté et on va t'en revendre un nouveau dans un nouvel espace. Et en fait, on a des boucles entre 3 et 5 ans où en fait tu vas à chaque fois acheter, jeter, acheter, jeter. Et la réalité, c'est que uniquement 3 à 5% du mobilier est valorisé. Le reste, c'est 50%, il est brûlé, donc valorisé en manière thermique ou enfoui. Voilà, donc c'est la réalité de ce marché du mobilier de bureau en France professionnel, parce que rien n'a été conçu pour être réparé, rien n'a été conçu pour être valorisé, revalorisé correctement ou pour être pour pousser dans la durée. On est vraiment passé au début du siècle, au début du 19e siècle, on avait les meubles d'antan qu'on appelle hyper costauds qui sont faits pour durer, à de l'ultra consommation, du fast furniture, quoi. Et du coup, c'est juste du déchet qu'on produit en masse, quoi. Et donc, notre philo, c'est de proposer des solutions concrètes avec un mobilier qui est en bois, en vrai bois. Donc, en fait, on valorise des filières qui sont des forêts éco-gérées, qui replantent les bonnes essences aux bons endroits et qui font des coupes sélectives pour cultiver les bonnes essences. Parce que faire grandir un arbre, c'est la seule façon de stocker durablement du CO2, parce que du coup le bois consomme du, enfin l'arbre consomme du CO2 pour grandir. Et la deuxième condition, c'est que ce bois-là, on le coupe, mais qu'on le fasse durer le plus longtemps possible avant d'arriver à une étape de brûlage, de le brûler. Parce qu'effectivement, si au bout de 3 ans tu le brûles, ça sert à rien, quoi. Et du coup, on a un produit qui est fait en bois, issu de forêts cogérées pour la matière. On a une finition qui est une huile cire qui vient d'Allemagne et qui est beaucoup utilisée en Scandinavie, très peu en France, mais qui est sur une base 100% naturelle, qui nous permet du coup d'avoir un produit qui est totalement cohérent de A à Z, mais aussi qui a un entretien facilité. Et l'idée, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de le poncer au bout de 3 ans pour l'entretenir. On peut venir fournir un aérosol qui va venir nettoyer, décrasser et renouer le bois sans avoir à poncer. Donc, qui est totalement compatible avec un usage professionnel. Et surtout, on a une conception qui est particulière, qui nous permet en fait d'être capable dans 3 ans, quand on aura équipé, parce que tu veux déménager, parce que tu veux la nouvelle collection, parce que tu veux changer, c'est aussi un cas d'usage normal, dans 3-5 ans, on est capable de le reprendre, de le remettre à neuf et le réinjecter chez toi, le modifier ou le remettre chez quelqu'un d'autre. Et on ne sait pas de la seconde main qu'on fait, c'est vraiment un produit neuf, c'est un produit à nouveau neuf. Et on est capable de faire ça 3-4 fois avant d'arriver dans une étape de recyclage ou de valorisation. Et on est même capable, par exemple, de fabriquer un produit totalement nouveau à partir de matière, enfin de plateaux de table, de nos produits qu'on utiliserait comme matière première pour fabriquer d'autres pièces de structure d'un nouveau design. Et en fait, ça, c'est la seule façon aujourd'hui qui permette de faire durer le plus longtemps possible le mobilier, tout en étant compatible avec les nouvelles envies, les besoins réels des boîtes qui sont on déménage, on grandit, on réduit, etc., etc. Et nous, on fait ça à Toulouse et on livre partout en France.
Super. Et comment ça fonctionne en fait quand, par exemple, il y a du mobilier déjà existant sur Louis.
Ouais.
Mais par exemple, est-ce que je peux venir avec une idée de mobilier et ensuite faire du sur-mesure ? C'est comme ça que ça marche aussi ?
Alors en fait, nos produits sont 100% personnalisables. On va pas faire de la création, sauf si tu prends 200 bench, si tu viens avec un truc. Là, on peut du coup faire un créa design pour toi. Mais dans 99% des cas, on a 12 références. Qui sont entièrement paramétrés, que tu peux modifier en termes de dimension, en termes de forme de plateau, d'intégration d'accessoires comme de l'électricité, des roulettes ou de branding, gravure, pour mettre le mobilier à ton image, parce que le mobilier est le premier support à la fois en entreprise des RH ou des office managers pour développer la culture de la boîte, pour créer pour être support de la culture d'entreprise. Mais c'est aussi en termes de design, et c'est pour ça qu'on insiste souvent sur la personnalisation en termes de dimension, le meilleur moyen de s'adapter à l'espace et pas l'inverse pour pouvoir faciliter la collaboration, la productivité, l'efficacité. D'exemple simple, on va toujours conseiller à nos clients de mettre des tables hautes dans les salles de réunion et enlever les chaises pour tuer la réunionite, parce que naturellement, si tu viens faire une réunion à 14h après avoir mangé et que tu as des chaises trop confort, en fait tu vas t'endormir et ta réunion elle va s'éterniser, alors qu'en fait tu pourrais très bien la faire en 20 minutes en étant debout. Donc, c'est des solutions concrètes où tu vas allier design et ergonomie et proposer du coup le bon produit au bon usage. Donc, si tu viens nous voir, en fait, on va juste te conseiller par rapport aux produits qu'on a déjà conçus et proposer de les personnaliser pour s'adapter à ton besoin que de créer à chaque fois un nouveau produit. Sinon, on ne peut pas en fait capitaliser et
oui,
sinon, on fait de la création pure et dure, quoi.
Ok. Il y a eu la pandémie qu'on connaît tous en 2020. Ça
ouais.
a été quoi l'impact justement du Covid sur ton business?
En fait, nous, on a été étroitement liés au rythme des confinements, parce que dès qu'il y a eu un confinement, toutes les boîtes ont arrêté de dépenser, ont bloqué tout leur budget et tout le monde était en mode survie et attendait de voir ce qui allait se passer. Ce qui fait qu'en fait, on a plein de projets qui se mettaient en pause. On n'a pas beaucoup de projets qui ont été annulés en fait. Juste des projets qui ont été mis en pause, qui ont été relancés du coup en septembre 2020, puis en octobre 2021, fin début novembre, du coup paf, de nouveau bloqué. Et puis on avait une période un peu bizarre entre de mars à cet été, où du coup on savait pas trop s'il allait y avoir la quatrième vague, etc., etc. Et heureusement, grâce à la vaccination, du coup on s'en sort plutôt bien. Et nous, on savait qu'à chaque fois il y avait un confinement, on n'avait pas de business pendant 3 mois. Et après, ça mettait vachement de temps à se relancer. Donc, on a été quand même vachement impacté pendant le confinement. pendant les deux années Covid, mais on a quand même réussi à faire progresser notre CA, nos projets. Donc on s'est amélioré, on a fait mieux cette année que l'année dernière, que même l'année d'avant, malgré le Covid, mais on n'a pas pu atteindre les objectifs qu'on s'était fixés initialement. Donc voilà comment on a été impacté, on va dire, de manière purement pratico-pratique. Par contre, je pense la bonne chose, en tout cas ce qu'on en tire, c'est que notre positionnement s'en est vu renforcé sur le Made in France, sur la durabilité, et on commence à avoir de plus en plus de boîtes qui se sont rendues compte à la fois de l'incohérence de faire venir, si on parle de notre secteur, mais du mobilier de Chine ou de droite à gauche, de se dire aussi, peut-être que je vais commencer à moi devenir un peu plus végétarien, manger moins de viande, faire attention à l'avion, etc. Donc commencer à intégrer des gestes vers une transition plus durable, mais aussi moi en tant que fondateur ou moi en tant qu'entrepreneur, avec ma boîte, je peux avoir un impact plus gros, parce que déjà j'impacte automatiquement tous mes salariés, donc c'est plus que moi ou ma famille, et avec ma boîte, je vais impacter aussi tous mes clients. Et du coup, en fait, depuis septembre, on a de plus en plus de boîtes, ça fait extrêmement plaisir, qui viennent nous voir parce qu'ils ont bien identifié sur le play durable et qu'ils disent, OK, nous, on veut des tables soit issues de la réutilisation, économie circulaire, ou on veut vos produits parce qu'on a... En fait, ce que vous faites, c'est exactement ce qu'on cherche et c'est totalement cohérent. Et en fait, ça nous parle parce que on voit que c'est vraiment fabriqué à Toulouse. Nous, on n'est pas sur... On met pas des petits drapeaux blanc, bleu, rouge aux quatre coins du site web pour te faire croire que c'est fabriqué en France alors que c'est juste emballé. On te fait pas de greenwashing avec 10 000 labels que tout le monde peut avoir, que n'importe quel industriel peut avoir, sauf qu'un industriel énorme ne peut pas simplement être durable au niveau dans lequel il faut aller, puisque on est sur un marché de rente et aujourd'hui ces gens-là n'ont pas intérêt en fait à changer la façon de faire puisque on est dans une logique de consommation. Et donc, il faut créer de la consommation, donc il faut jeter pour pouvoir revendre à nouveau, quoi.
Aujourd'hui, c'est quoi la typologie de vos clients ?
Alors nous, en fait, on a 50% du business qui vient à travers nos distributeurs. Donc en fait, nos clients sont les distributeurs, donc ils sont des aménageurs, des space planners, ils peuvent avoir plusieurs noms, mais ce sont des gens qui du coup vont venir te voir, vont te proposer un aménagement, et ils ont différentes typologies, différentes panels de possibilités. Mais en gros, c'est eux qui vont te vendre le mobilier pour nous. Et après, on a 50%. C'est soit des projets que nous, on va gérer en direct avec des clients récurrents, comme des espaces de coworking, etc., qui eux consomment pour eux-mêmes, ou des projets qu'on génère en inbound par le site web, qu'après, du coup, on va venir signer avec un distributeur parce que la distribution, en fait, t'empêche ou te limite sur la possibilité de faire du direct. Donc aujourd'hui, en fait, on a décidé de grossir par la distribution. Mais ce qui nous permet d'être placé dans des startups, des PME, des corpos. Donc, on va être autant chez Spendesk que chez, je sais pas, que à la région, que chez Total ou Air Liquide. Okay. Voilà. Vraiment, on voulait pas faire une startup qui fait des meubles que pour les startups parce que c'est trop petit. Et puis, nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'impact si on veut changer les choses, quoi. Donc, du coup, il fallait vraiment que nos produits soient adaptés au plus grand nombre, et donc on est vraiment positionné chez tous les types de boîtes, quoi.
Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Louis, justement ?
Ouais, carrément. Du coup, aujourd'hui, Louis, en gros, on a plus de, je crois, dernière nouvelle, plus de 6000 utilisateurs, donc 6000 personnes qui travaillent tous les jours sur nos produits. On a une trentaine de distributeurs qui nous distribuent partout en France, de tailles différentes, de typologies différentes. Cette année, on devrait passer la barre du million de CA en 2021, malgré l'année Covid, et avec un objectif de 2,5 millions l'année prochaine, quoi. Puisqu'on voit vraiment que là, les tendances sur à la fois la durabilité et le Made in France deviennent hyper importants, tant dans les critères d'appel d'offres, en France ou ailleurs, que dans les cahiers des charges, des utilisateurs, des futurs clients. Qui du coup disent OK, le mobilier c'est un moyen d'avoir un impact. OK, je vais commencer à faire attention, je vais commencer à lire entre les lignes et essayer de comprendre. OK, c'est pas parce que c'est recyclé que c'est bien. Et nous on essaye aussi de produire les documents, d'expliquer aux gens que il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et le mieux c'est de prolonger le plus longtemps possible la durée de vie d'un produit. On prend vraiment à 2000% la réparabilité parce que c'est un des seuls moyens qu'on va avoir durablement de changer les choses, quoi, d'inverser la tendance.
Et du coup, il y a toute une partie de sensibilisation et de pédagogie en même temps que la fabrication et la vente de vos produits, quoi.
Exactement. Donc ça, c'est un truc qu'on fait plutôt côté côté distributeur pour l'instant, mais on travaille sur un fat projet qu'on veut lancer à la rentrée, enfin à la rentrée 2022, justement pour mettre en avant toutes les boîtes qui ont une vraie démarche durable, pas juste qui se cachent derrière un label ou qui s'achètent une bonne conscience, mais mettre en valeur voilà toutes ces boîtes qui proposent des actions hyper concrètes, soit parce qu'elles fabriquent des produits ou des services en France. Voilà, la chaise française pour ne pas les citer, les petits bidons, qui vraiment des gens qui ont une démarche durable hyper poussée et qui vont faire des choses qui au niveau de leurs produits très bien, mais même au niveau de leurs équipes. Nous par exemple, là, on s'est engagé en fait à ne plus prendre l'avion pour nos déplacements en France pour l'équipe commerciale, enfin pour l'équipe tout court, parce que on n'est pas. Alors on a Toulouse, c'est un peu plus chiant des fois, mais il y a quand même le train. Mais en fait, on n'est pas en train de sauver des vies, donc ça ne justifie pas. Et donc, quelqu'un peut toujours attendre 24 heures de plus qu'on arrive avec le bon timing par le train. Et en fait, c'est des actions hyper concrètes qui font que, bah ouais, là, tu changes les choses au moins à ton échelle et tu l'inspires à toute ton équipe et tu peux l'expliquer aux clients et tu peux aussi les inspirer et les faire commencer à changer les choses, quoi. On est vraiment partisans du concret chez Louis de faire les choses. C'est pour ça qu'en communication, on n'est pas les meilleurs du monde, mais on s'améliore. Mais parce qu'on voilà, on fait les choses pour de vrai. Voilà, on fabrique notre propre usine, on fabrique nos meubles. Voilà, on fait des vrais trucs.
Bah, vous n'êtes pas les meilleurs, mais je vous trouve très bon quand même. Hein, que ce soit la com sur le site web et sur l'Insta, etc. Je trouve ça quand même très quali. Et je trouve que vous avez
Merci.
Un positionnement qui effectivement ne se voit pas ailleurs. Donc, vous êtes.
En tout cas, on a une équipe talentueuse qui se défonce pour justement pour améliorer ces points-là.
J'ai deux dernières questions sur Louis. La première, c'est pourquoi Louis ?
En fait, on a effectivement, c'était une question qu'on s'est. Donc, nous, on a fait, au niveau de l'historique de Louis, on a fait, on a démarré donc, à Toulouse. Ensuite, on a intégré l'IoT Valley, qui est notre premier accélérateur de start-up, qu'on a fait en 2017, de 2017 à 2018, donc en gros de juin à juin. Et puis, on a eu la chance incroyable d'intégrer Techstars Paris 2018, qui a été pour nous vraiment une claque et on a appris énormément sur ces 4 mois passés à Paris, à Techstars. Et puis, à ce moment-là, en fait, on n'avait pas encore de nom de marque. Donc, on vendait nos meubles, mais ils s'appelaient pas Louis. Et du coup, on savait qu'on voulait créer une marque forte parce qu'on voulait justement incarner toutes ces valeurs et toutes ces choses qu'on comporte et qu'on veut pousser. Mais il me fallait un nom. Et du coup, on partait sur un nom qui soit court, facile à prononcer en anglais et en français. Et si possible, lorsqu'il les prononçait en anglais, transmettre une notion de qualité à la française, de design à la française. Et les prénoms français marchent très bien pour ça. Parce que pour les Américains, les prénoms français sont toujours très classe, il y a la French vibe qui est transmise. Donc on savait qu'on partait sur un prénom. Et de l'autre côté, il y a le mobilier Louis XIV, Louis XV, Louis XVI qui sont des références de leur temps. Et du coup, nous, on s'est dit pourquoi pas créer Louis XXI, la référence du mobilier de bureau du XXIe siècle. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi être bloqué au XXIe siècle? Autant être intemporel. Il n'y avait aucune marque qui s'appelait Louis. Et du coup, Louis tout court, quoi. Donc, on a viré le numéro. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé Louis. Voilà. On fait du mobile bureau 100% custom, éco-responsable, made in France.
OK. Et pas Louis Design, hein, parce que c'est l'adresse du site, louis.design.
C'est
pas le nom de la société.
C'est ça. En fait, on voulait soit le problème du .co, du .com ou du .fr, c'est qu'ils étaient à, je sais plus, 500 000 balles. Donc, c'était pas forcément le premier investissement. Et du coup, celui qui était le plus joli, qui se rapprochait de ce qu'on faisait, c'était le point design. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde nous appelle Louis Design, alors qu'on s'appelle Louis tout court. Bon, il y a un moment, tant pis, c'est pas grave. Mais.
Okay. On le rappellera dans le podcast. Hein. On mettra en gras. C'est Louis.
C'est ça.
C'est quoi les objectifs futurs pour Louis ?
L'objectif futur, là, c'est de bien finir l'année. Ce qui est en train de se passer, c'est de continuer à développer nos outils pour nos distributeurs et aussi mais aussi pour nos utilisateurs, pour bien leur expliquer pourquoi, enfin quelles actions, qu'est-ce qu'ils favorisent, quel impact ils ont en faisant le choix de nos mobiliers. Et surtout en fait pour nous 2022, c'est l'année de la bascule sur l'automatisation. On a pris du retard sur ce sujet-là à cause du Covid, mais on a identifié tous les éléments qui nous manquent. Et en fait, là, la première étape, c'est cette fin d'année. Donc, en décembre, on déménage notre atelier et on a l'usine Louis, qui est notre propre atelier à nous, où on aura toutes les équipes au même endroit. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on était sur deux sites différents. On était l'équipe commerciale dans des bureaux à l'IoT Valley et à 2 kilomètres de là, dans la partie fabrication, dans l'atelier, l'équipe technique et de production. Et donc là, en gros, au 15 décembre, on ramène tout le monde au même endroit. Et quand, vu qu'on est cohérent et qu'on est droit dans nos bottes, en fait, on réhabilite un vieux hangar abandonné depuis un petit moment. Donc en fait, on transforme l'existant avec des bureaux des espaces de vie, et on vient y ajouter un agrandissement en bois qui soit démontable sur un niveau de construction de type maison passive, mais qui va du coup être une usine où on va fabriquer pour avoir du coup 900 mètres carrés de production en ligne, enfin sans poteau, parce qu'aujourd'hui on est un peu embêté sur la configuration actuelle du bâtiment. Et là, c'est vraiment notre propre truc à nous. On va pouvoir du coup mettre en place notre chaîne complète de fabrication en intégrant les nouvelles machines qui vont nous permettre d'automatiser les étapes qui nous manquent à automatiser pour être plus performant et puis pour adresser la demande aussi. Et à côté, notre première ligne de retraitement de nos mobiliers, donc de seconde, enfin de deuxième, troisième et quatrième vie. Et donc, en gros, ce que nous, notre objectif, c'est que pour 2025, on ait au moins 25% de nos mobiliers en circulation chez nos clients qui soient issus de la deuxième vie.
Ok, très clair. On va pouvoir passer à la petite partie bilan. Quel a été le moment le plus difficile de ces aventures ?
Je pense qu'il y a eu des moments... cette année, on a eu des moments un peu durs, juin-juillet, parce que il y avait un point de... Comment dire ? On a eu à la fois... La hausse énorme des matières premières, qui ont augmenté, le bois a été multiplié jusqu'à 2,5. Donc, du coup, on a été automatiquement énormément impacté. On a eu la menace de la quatrième vague. En fait, toutes les boîtes ne faisaient rien. Alors qu'il y a un énorme enjeu. Et justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus serein. Parce qu'on se rend compte que non seulement on va pas passer d'un monde 100% office à 100% télétravail, mais pour un truc qui est, je pense, le mieux à la fois pour les entreprises comme pour les équipes, qui est un hybride avec du coup 2 jours en télétravail, 3 jours Bien au sûr. Bureau ou inversement. Et du coup, les entreprises doivent repenser leurs espaces. Donc il y a un marché en fait énorme qui est en train de s'ouvrir cette année et sur, je pense, les 3-4 prochaines années sans problème, de grosse croissance, où en fait beaucoup de boîtes sont en train de réaménager, repenser leurs espaces pour s'adapter à ces nouveaux besoins, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus dur d'expliquer à quelqu'un qu'il faut qu'il fasse une heure de voiture le matin, une heure de voiture le soir, tous les jours, quoi, voire plus. Donc, ce qui a été dur, c'est ça, on avait vraiment des points hyper, hyper costauds, voilà, qu'on ne pouvait pas maîtriser, qui étaient dû au Covid, hein, mais projet tout à l'arrêt, en pause, donc pas de visibilité. Et ensuite, la matière première qui explose, et nous, un besoin d'automatiser. Donc, du coup, si on automatise, c'est-à-dire que du coup, on crame tout notre cash, on ne peut pas le faire maintenant. Donc ça, c'était assez, assez costaud, mais du coup, ça nous a permis de nous reconcentrer cet été sur nos produits, sur notre équipe, sur nos valeurs, et ça paye, parce que du coup, là, on a vraiment des projets de plus en plus gros qu'on avait amorcés en début d'année, qui du coup, par notre positionnement, par ce que l'on montre, et aussi par la qualité de nos produits livrés, on a vraiment des très très bons retours utilisateurs sur nos produits. Donc ça paye, ça fait extrêmement plaisir, et... Donc ouais, je pense que ouais, les moments durs, ça a été plutôt sur la partie le rassurer les gens par rapport au Covid au début quand ça a été annoncé avec le confinement. Puis les projets qui on avait vraiment zéro visibilité, alors que maintenant c'est bon, c'est reparti, ça tabasse bien. Donc vraiment, je pense que c'était ça le moment le où tu te dis ok, en fait à quoi ça sert ce que je fais si en fait à part cramer de l'argent, on fait rien, quoi.
Ouais. Et aujourd'hui, de quoi es-tu le plus fier ?
Bonne question. Là, je pense que je suis très fier de l'équipe qu'on a. Je pense même ça la fierté numéro une. On a vraiment réussi à construire. Il y a des trucs où on s'est planté, hein, comme plein de boîtes. Mais pour le coup, sur la partie RH, c'est vraiment un des sujets, malgré notre jeunesse, on ne s'est pas vraiment planté. Je pense que sur, je sais pas moi, 20... Sans compter les stagiaires, mais sur la vingtaine de personnes qui sont passées par chez nous, on a eu une seule erreur de... Même plus, sur 25 personnes, on a eu une seule erreur de recrutement. Donc, ce qui est plutôt assez faible. Et vraiment, on a une, à la fois un engagement et une passion que partagent toutes les personnes chez Louis, qui en fait qu'on a une équipe hyper soudée. Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment ça le moteur. Et vraiment, dans les moments difficiles, on se dit en fait à quoi ça sert. En fait, ce qu'on fait, c'est vraiment pour la team, parce qu'on ne veut pas leur dire que l'aventure s'arrête là, parce qu'on bah, n'a pas vu un truc, ou on s'est chié ou je ne sais pas quoi. Donc vraiment, l'équipe qu'on a réussi à construire, l'équipe construite est vraiment, vraiment exceptionnelle. Il y a de nouveaux talents qui vont nous rejoindre, j'en suis sûr. Mais en tout cas, ouais, la plus grande réussite, clairement, c'est l'équipe. Parce que c'était un des plus gros défis et c'est un truc qu'on a le mieux réussi, quoi.
Très clair. On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat.
Ouais.
C'est quoi les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie et si tu pouvais m'en citer une ou deux?
Je sais pas. Je pense que, en tout cas, une des personnes que je suis extrêmement content et heureux d'avoir rencontré, c'est Julien Quintard. C'était notre managing director chez Techstars, notre directeur de promo chez Techstars à Paris. Donc, il y a un ancien aussi entrepreneur, enfin, non, c'est un entrepreneur qui avait monté sa première boîte, qui a aussi fait Techstars, qui l'a revendu, et aujourd'hui, il a remonté une nouvelle boîte. Donc, il était vraiment passé par toutes les étapes. Et, pour moi, c'est un entrepreneur exceptionnel, et qui, vraiment, a su voir en nous ce qui notre potentiel, alors qu'on, à la base, entre guillemets, on fabrique des meubles, et alors qu'on a, en fait, on est, une équipe d'ingé, on développe des technos de ouf, et on fait du design, on fait du produit. Mais il a su vraiment voir ça dès le départ. Et ça reste un de nos meilleurs mentors, même aujourd'hui, qui nous accompagne sur le développement de la boîte, sur nos projets, etc. Et du coup, c'est clairement une des rencontres qui m'a le plus marqué parce que c'est, je pense, mon meilleur mentor, clairement aujourd'hui. Définitivement, Julien.
La deuxième, c'est est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui et ne me réponds pas Ragnar Lodbrok.
Une personne qui m'inspire aujourd'hui, je pense ça va être un hybride d'entrepreneur, un mix entre Richard Branson et Elon Musk, quoi. À la fois sur cette notion de on part de rien et on n'est pas spécialiste, mais du coup on se met pas d'œillères. Un peu à la Branson, de voilà, on y va à fond et on croit en nous et on va réussir à faire un truc de ouf, même si tout le monde nous dit qu'on peut pas y arriver, etc. Très clairement. Et après Musk, plus sur la partie vision, mais aussi voilà de faire du physique et de produire, que ce soit des bateaux ou des meubles, hein, ou même l'ingénierie autour de la, parce que là notre particularité, c'est qu'on a quand même développé notre propre outil industriel. Qu'on a autofinancé dès le départ. Et ça, je pense, quoi, alors, on n'a pas encore une usine Tesla, mais clairement, c'est ce qu'on veut faire, quoi. Vraiment, notre inspiration, notre exemple, c'est clairement ça, avec la bonne dose de robotisation pour être capable de faire un produit qui soit pertinent et à impact.
Est-ce que tu peux me raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée en podcast?
Ouais, dans une anecdote qu'on n'a pas forcément racontée comme ça. Bon, je raconte et tu me dis si tu juges la juge pertinente, j'en ai peut-être une deuxième sinon en tête. Mais en gros, quand on a démarré notre projet de bateau en France, on avait des parents de potes qui étaient ingénieurs architectes navals, assez précis, surtout à Toulouse. Et du coup, on s'est dit génial, pour nous plein de conseils, etc. Et c'était au moment où on était en train de fabriquer la quille et cette personne, elle est venue. Et elle a vu la quille et a dit non mais ça a pas marché, ça a pas flotté, quoi. Et elle est repartie. Et voilà. Et du coup, on a vraiment été alimenté par aussi ce désir de prouver qu'elle avait tort, cette personne, en faisant nos premiers bateaux, en le faisant flotter, mais en construisant un bateau aussi plus gros que lui, il avait jamais fait. Et aujourd'hui, d'être allé à Roskilde et d'avoir battu les mecs qui font, ça fait 10, 15, 20 ans qui font du dracar avec un bateau de même taille, identique dans la configuration, dans l'assemblage, pas au niveau des matériaux, fait que, et sans, avec beaucoup moins d'expérience qu'eux, même en navigation, c'était un bon truc de revanche, de montrer que c'était possible. Et en fait, que moi m'attire beaucoup dans la culture scandinave, c'est que il y a que en France, on a vraiment eu des gens qui nous ont dit, et c'est même encore le cas aujourd'hui, hein, que c'est pas possible, on va pas y arriver, etc. Et beaucoup de sachants, beaucoup de spécialistes, parce qu'on est un pays de spécialistes en France avec des vrais diplômes et tout, qui nous ont dit, même chez Louis, hein, que sur plein d'autres sujets, je saurais pas lesquels dire, mais voilà, même typiquement notre usine. Ah non, mais en fait, si vous avez pas 2 millions d'euros, vous pouvez pas faire une usine, quoi. Bon, bah écoute, nous on va faire une usine avec 150K, quoi. Voilà, c'est toujours les mêmes personnes. Et en fait, et ce qui est dommage, c'est que elles ont des compétences qu'elles pourraient aider, mais en fait, vu que on rentre pas dans leur scope ou qu'en fait, elles ont décidé que c'était pas possible, du coup, c'est même pas la peine de discuter. Alors qu'on a des gens au Danemark, notamment, qui sont spécialistes, ça fait 20 ans qu'ils construisent des drakkar, et quand on est allé les voir en 2013 et qu'on était 4 jeunes étudiants toulousains, on leur dit, voilà, on est 4 jeunes toulousains, on fabrique un drakkar dans notre garage, etc., voilà ce qu'on est en train de faire. Et le mec, le responsable en chef du chantier naval, il a pris la barre de sécurité, il l'a enlevé. Il a fait un tour VIP de tout le site de fabrication, les trucs que tu peux pas t'éviter habituellement. Et il nous a expliqué plein de trucs. À la fin, il nous a donné sa carte en disant, bah voilà, si vous avez des questions sur des éléments du bateau, etc., n'hésitez pas à m'appeler, quoi. Et en fait, c'est genre un des pontes, c'est un des mecs les plus, aujourd'hui, en fait, avec notre projet, on a accès, et c'est génial, au plus grand spécialiste au monde de restauration et construction de drakkar, et aussi au meilleur navigateur. Et en fait, ces gens-là, et je pense que c'est beaucoup la partie de la culture scandinave et le rapport à l'éducation, en fait, un peu comme les anglo-saxons aiment le fait que des jeunes se dépassent pour faire un projet, et en fait, vont pas nous juger, au contraire, vont essayer de nous aider, parce qu'ils trouvent que le projet est cool, et ils ont envie de nous aider, quoi. Et aujourd'hui, on a énormément d'aide de gens, de Scandinavie, de Norvège, etc., parce que ils croient en notre projet, ils ont envie que ça marche, quoi. Et c'est un peu la morale de notre histoire, que ce soit chez Louis ou même chez Bâtard, c'est les deux sont étroitement liés à ça. C'est que déjà il faut jamais baisser les bras au premier refus, etc. Et que il faut pas hésiter à aller voir un petit peu ailleurs, d'autres cultures. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus ouverts et qui vont avoir envie de vous aider. Et les gens qui nous ont aidés en France, bizarrement c'est les gens les moins spécialistes. Et peut-être que c'était ça aussi. Mais ceux qui ont toujours cru en nous. Qui avaient envie de nous aider, venir nous aider le week-end, c'est ceux qui connaissaient rien, mais juste, ils étaient happés par cette énergie, par cette volonté de faire les choses et d'aller au bout, quoi. Et alors que malheureusement, les 10 spécialistes auraient pu nous aider par leur expertise qui est réelle. Et ça a été vraiment un truc dommage. Et c'est pour ça que ce projet, à la fois chez Louis, on n'a pas des valeurs qu'on affiche sur un mur pour faire joli. Que ce soit sur l'engagement, l'égalité homme-femme, etc., c'est vraiment des trucs qui comptent vraiment hyper fort pour nous, puisqu'on est sur un métier, à la base, un métier d'homme, sur la partie menuiserie, bénisterie, et nous, on est hyper fiers d'avoir une équipe jeune d'ébénistes qui font toutes les finitions, et on est quasiment à l'équilibre, enfin, la parité, mais on est hyper fiers d'avoir des femmes tous les jours qui fabriquent des bureaux, parce que dans leurs histoires, elles sont dans des boîtes, quelle que soit la taille de la boîte, où on leur disait, voilà, en fait, non, mais toi, t'es une fille, tu vas plutôt passer le balai parce que tu vas te couper avec les ciseaux à bois, quoi. Alors que ces personnes-là ont fait 5 ans d'études en ébénisterie, quoi. Et, mais c'est la réalité, quoi. Et c'est pas au fin fond de la France, c'est près de Toulouse, c'est dans en Bretagne, etc. Donc, c'est aussi à nous, en tant qu'entrepreneur, de faire changer les choses. Et ça passe par inspirer et montrer l'exemple. Et ce projet, de drakkar, de chantier naval participatif, c'est aussi ça. C'est pour montrer que, quoi que disent tous les spécialistes en France, etc. Non, en fait, on peut le faire et on va y arriver. Et même, on peut faire des trucs incroyables qui marchent extrêmement bien, quoi. Et ça, on veut le partager avec les gens. Et c'est ce qu'on fait chez Louis avec notre usine, avec nos meubles, et ce qu'on fait avec Bâtard, avec nos bateaux, quoi.
Ouais, l'anecdote est totalement validée. Hein.
Ok, parfait.
Je trouve que, pour revenir à ce que tu as dit, je trouve qu'en France, effectivement, il y a une sorte de barrière mentale, tu vois. Assez étrange et encore plus dans le milieu industriel, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans certains domaines, et en particulier dans le domaine industriel, mais aussi dans tous les domaines, qui vont te dire effectivement, non, c'est pas possible ou ça va te coûter très cher, etc. Et c'est vrai que c'est hyper Exactement. Important ce que tu dis, parce que quand on voit comment vous avez mené votre projet de drakkar et ensuite votre boîte Louis, tout from scratch, c'est-à-dire aucune connaissance en ébénisterie, en drakkar, en culture viking, etc. Vous avez tout appris et vous avez tout fait tout seul, quoi. Donc juste bravo, et je pense que c'est un exemple à suivre pour développer son projet aujourd'hui et demain, quoi.
Ben, merci beaucoup.
Et ma question d'après est liée forcément, puisque c'est: quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer ? T'en as déjà donné quelques-uns, mais est-ce que potentiellement tu pourrais en rajouter un ou deux autres ?
Ouais, donc effectivement, le premier, c'est l'abnégation. C'est vraiment de... Je pense que moi, je suis quelqu'un de passionné, et la définition pour moi de la passion, c'est en fait, quand tu fais un truc, tu fais à 100%, tu t'arrêtes, tu fais pas à moitié, quoi. Je pense que quand tu te lances un projet... En fait, qui réussissent ou qui réussissent pas, il faut le faire à 100%. Après, il faut effectivement, faut pas non plus être débile et trop s'obstiner. Si pendant 10 ans tu fais un truc, ça marche pas, bon, il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. Mais je pense qu'il faut vraiment, voilà, se donner les moyens d'y arriver, savoir se mettre vraiment 100%, se défoncer pour un truc, parce que dans tous les cas, tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas faire des bonnes rencontres. Et quand les gens rencontrent d'autres personnes qui sont passionnées, c'est ça qui est intéressant, en fait, quel que soit leur secteur, leur domaine ou leur expertise, tu vas apprendre tellement de choses que c'est juste incroyable de parler avec elles. Et ça qui te donne envie, en fait, de continuer. Donc, effectivement, être résilient ou acharné, c'est, on choisira le mot qu'on veut, mais en tout cas, ça vaut le coup d'y aller vraiment à 100%. Quoi qu'on fasse, quelle que soit la nature du projet, il ne faut pas attendre d'avoir un énorme projet pour démarrer. Et comme dit Orelsan, pour filmer, tu as besoin d'un truc qui filme, quoi. Il ne faut pas se cacher derrière l'excuse de mais il faut la maxi machine. Non, non, mais vas-y, go, on y va, quoi. Et même si au début tu bricoles, c'est pas grave, quoi.
Eh ben, écoute, le message est passé. On va passer à la dernière partie du podcast. Quelques petites questions rapides, même si, comme je le répète à chaque fois, on a quand même du temps. le premier, c'est: est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Pas forcément sur l'entrepreneuriat, mais un livre qui t'a marqué récemment ou pas récemment.
Un livre qui m'a marqué, je pense que le livre qui m'a le plus marqué, et qui pour moi qui fait que Victor Hugo est le plus grand romancier au monde, c'est Le Dernier Jour d'un Condamné, qu'on a lu au collège, je crois, qui est une vraie claque, moi j'ai dû relire après, mais qui est vraiment une claque, tant par la pertinence du propos, Hugo ça reste quand même un écrivain extraordinaire, et ça se ressent, et le livre est vraiment ultra puissant. C'est un livre assez court, mais qui est ultra puissant, et qui est extrêmement bien écrit, quoi. Donc vraiment, le livre que je recommande, qu'il faut au moins avoir lu, parce que ça permettrait aux gens qui se poseraient des questions sur la peine de mort, bah, voilà, d'avoir des vraies réponses. C'est une leçon d'écriture, quoi.
Carrément. Est-ce que tu as un film à me conseiller?
Alors, effectivement, moi j'aime beaucoup le cinéma. Un film que je conseille, un film récent en tout cas, que je conseille beaucoup, c'est Le Chant du Loup. Donc c'est un film qui est sorti en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc il y a un film réalisé par Antonin Baudry. Et pareil, ce mec est assez extraordinaire pour l'aparté. Donc ce mec a été ambassadeur culturel, je crois, en Espagne, voilà, attaché à l'ambassade de France en Espagne, aux États-Unis, etc. Donc c'est un mec, voilà, qui a une culture, enfin qui vient du monde de la diplomatie, et il écrit une BD, et dès son deuxième tome il est déjà pris d'Angoulême, quoi. Vraiment, le mec, dès qu'il touche à un truc, il est très bon. Et Le Chant du Loup, c'est son premier film. Et c'est de loin l'un des meilleurs films réalisés de l'histoire du cinéma sur les sous-marins. C'est un film français qui n'a rien envie au film américain. Et franchement, c'est ultra impressionnant pour quelqu'un qui a réalisé son premier film de faire un film aussi abouti, aussi avec des acteurs aussi talentueux et aussi bien fait. Alors, moi, j'aime beaucoup les films de sous-marins. Faut pas me demander pourquoi. Et du coup, clairement, celui-là, il est excellent. Ça mène de la géopolitique. Et bon, pour le coup, c'est sa formation de base qui fait que du coup la lecture est hyper intéressante du film. Et après, c'est voilà, ça plonge donc c'est un film par contre qu'il faut pas regarder sur son téléphone ou sur son ordinateur avec un système de merde, parce que le réal a mis beaucoup d'énergie à proposer une expérience sonore au lecteur, mais au téléspectateur, enfin. Au spectateur. Donc il faut au moins avoir soit un bon cinéma ou à défaut un bon casque, s'isoler et pour vraiment être plongé dans l'ambiance à la fois visuelle mais aussi sonore du film qui a été extrêmement bien travaillé. Donc, un film récent, un film français récent qui est pour moi excellent.
Eh bien, écoute, je ne connaissais pas et je vais me le noter le regarder dans les prochains jours.
Bah, tu m'enverras un message de ce que tu en penses, mais il est vraiment excellent.
Carrément. La troisième question, c'est ta musique du moment.
Bah, en fait, je n'ai pas redécouvert, mais je me suis mis à réécouter Travis Scott. Et du coup, voilà, des trucs comme Butterfly Effect ou Highest in the Room. Voilà, c'est des trucs qui sont très, très cool et voilà, ce mec est très bon.
Ensuite, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle ?
Alors après, je ne sais pas si c'est racheter juste pour le préciser, dire c'est à moi ou si c'est pour ou si c'est pour influer ou quelque chose. Dans les boîtes, effectivement, que je kiffe, dans les grosses, effectivement, ceux qui ont une très belle culture du produit et de l'expérience. Et pour le coup, voilà, Apple reste quand même une des meilleures références parce qu'ils sont capables de faire des trucs extraordinaires. Mais si je prenais une boîte française, De Vialet, donc une boîte qui est industrielle, qui fabrique des systèmes audio d'excellente qualité, et nous on a la chance d'en avoir. Voilà, c'est pour moi c'est ce qui montre ce qui se fait de mieux en France. Une belle boîte avec de la belle techno, mais qui a su se vendre et qui est pas juste de l'ingénierie pour l'ingénierie, mais qui a un truc. Donc ouais, je dirais De Vialet, ça. Voilà, une belle boîte.
Ok. Ouais, une marque reconnue dans le monde entier. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée ? S'il n'y en a pas, c'est très bien.
non, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a pu à la fois bien parler des deux projets qui m'animent. Moi, c'est peut-être le sujet sur lequel on a pris conscience et que je mets un point d'honneur à essayer d'expliquer, c'est sur la partie durabilité. On s'est vraiment rendu compte cette année que, enfin, avec les projets sur lesquels on a participé en début d'année, qu'il y avait à la fois une envie, et ce qui est génial, d'avoir plus d'impact, de faire des choses durables dans les boîtes en France de manière générale, mais aussi en Europe. Mais il y a encore aussi beaucoup trop de à la fois d'un côté de greenwashing, mais aussi de méconnaissance ou de ne pas savoir chez les utilisateurs pour être capable de bien lire entre les lignes et de savoir que de comprendre que c'est pas parce que c'est recyclé que c'est bien. Je donne un exemple très simple, mais par exemple si on prend les chiffres de l'ADEME, une tonne d'acier produit par l'industrie de manière standard par les minerais, ça génère 2 tonnes de CO2. Une tonne d'acier produit, enfin issu du recyclage, ça ne produit que 1 tonne de CO2. Donc d'un point de vue CO2 pur, effectivement l'acier recyclé pollue moins. Mais en fait, on prend pas en compte tous les additifs ou tous les éléments qui vont nous permettre de préparer ces aciers issus des bennes, des déchetteries, etc., les nettoyer pour pouvoir en faire un acier qui soit propre, quoi. Du coup, le carbone ne peut pas être un élément unique de comparaison. Et c'est pas parce que c'est un peu, c'est le aujourd'hui, le mot recyclé est en train de devenir ce que était le mot naturel à la bouffe. L'argument massue, c'est 100% naturel. Donc, dans la tête des gens, donc c'est bien. Mais en fait, il y a des produits qui sont 100% naturels, comme l'uranium ou comme l'amanite phalloïde, mais qui sont 100% mortels. Et c'est pareil avec le recyclage. C'est pas parce que c'est recyclé que c'est bien, parce qu'il y a le recyclage, il y a la collecte, il y a la transformation, il y a plein de déchets qui peuvent être générés. C'est comme la notion de valoriser des déchets. En fait, c'est pas parce que tu valorises un déchet que c'est bien, parce que ton déchet, ça peut être de la saloperie que tu vas juste emballer, que tu vas créer un autre déchet qui peut être pire plus tard, et c'est juste décaler le problème. Et du coup, c'est ça que j'aimerais essayer d'expliquer aux gens, et s'il y a un truc que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est ça, c'est de... nous, on va faire le maximum pour essayer d'expliciter et essayer de comprendre, comment lire entre les lignes. Mais des fois, c'est avec un peu de bon sens de comprendre les démarches des différentes personnes et de poser les bonnes questions sur « Ok, mais où sont fabriqués vos produits ? Comment sont-ils fabriqués ? Qu'est-ce qui a été pensé pour réellement le réparer ?» Parce que voilà, il y a des solutions comme la réparabilité qui est un des outils vraiment puissants pour avoir de l'impact et qui est concret. Il y a la réutilisation. Ils sont vraiment les éléments centraux pour pouvoir faire une vraie transition durable et pas juste du bullshit, quoi.
Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pas parce que c'est recyclable que c'est recyclé aussi. Donc, c'est clair.
Absolument.
Que tous ces termes-là, c'est important de le rappeler parce que voilà, il y a beaucoup de filières de recyclage qui n'existent pas. Et on peut penser, effectivement, quand on voit un produit recyclable qui va être recyclé, en fait, pas du tout. Et effectivement, après, l'impact du recyclage, c'est clair que.
Ouais, et puis il y a même des produits qui sont recyclés, mais c'est pas parce que c'est recyclé que ça peut l'être encore une nouvelle fois et que ce sera recyclable.
Ouais, exactement.
Donc voilà, donc, pareil, c'est ça, il y a un des trucs, ils fabriquent des je sais plus quoi avec des déchets, donc ils recyclent les déchets. En fait, ce qu'ils produisent, c'est juste un autre déchet qui peut pas être recyclable, donc bah non, on fait pas ça en fait.
Exactement. Et je vais te poser la dernière question que je pose dans chaque épisode. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Bah, Julien Quintard, par exemple. C'est pas un grand bavard, mais c'est un mec vraiment, vraiment très, très bon. Et il propose il développe une boîte qui s'appelle Routine et ils font un outil de productivité pour les entrepreneurs. Donc, il a un vrai historique, puisqu'il a déjà réussi des choses. Donc, moi, je dirais Julien Quintard. Pour te donner une autre personne, je peux prendre les copains de ma promo de Techstars, Elliot Jabès et son associé, Oscar Walter, qui sont clairement pour moi, je pense, les meilleurs entrepreneurs de leur génération en France, tout simplement, avec leur boîte qui s'appelle Stockly. C'est vraiment des machines de guerre. C'est vraiment des tueurs. Et ouais, je pense que ouais, eux sont très très bons.
Ok, bah écoute, merci pour les recos. Je pense que je les contacterai dans les prochaines semaines pour une prochaine saison. Je te remercie pour cet échange. J'ai trouvé ça super cool que tu
avec
me
plaisir.
Racontes toute l'histoire de tes aventures. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve par exemple dans 2 ans pour un nouvel épisode pour me raconter un peu tout ce qui s'est passé sur ces 2 prochaines années.
Et parfait.
Je dis pas qu'il y aura pas mal de choses qui vont se passer.
Normalement, on pourra t'envoyer des photos du Drakkar quasiment fini. Non, même il sera fini normalement. Dans 2 ans, il est censé être fini, partir en test. Donc, je t'invite à venir enregistrer l'épisode sur le pont du bateau, justement.
C'est ce que j'allais dire. On pourrait même faire le podcast dans le Drakkar.
Voilà.
Je suis très sérieux.
Mais moi aussi. Moi aussi, je suis très sérieux.
Et j'espère que l'échange t'a plu. J'espère que toi qui as écouté cet épisode, ça t'a plu aussi. Et puis, on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur. Salut Thomas.
Salut François, merci beaucoup, à bientôt.
Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un _ à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.